Bonsoir, bienvenue dans cette édition du Clinique de la Presse de Clermont-Ferrand au centre du débat. D'abord, à moins de 3 semaines de la tenue des élections, des cas d'intolérance et politique se multiplient à travers la République démocratique du Congo. Enfin, élection législative et présidentielle du 28 novembre prochain, la CENI affirme avoir entamé 2 phases importantes, à savoir le déploiement des matériels et la formation des membres de différents bureaux de vote, des centres de vote, des centres locaux de compilation et autres. Trois confrères journalistes qui participent à ce débat, il s'agit de Luc Nicomo Kabongat et les journalistes à Congo Web Télévision, c'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. Bonsoir Luc Nicomo Kabongat.
Bonsoir.
Israël Moukala est le journaliste à Géopolis, un magazine économique paraissant ici à Kinshasa. Bonsoir Israël Moukala.
Bonsoir Luc.
Et Trésor Mouyingo Makunya, il est journaliste à la radio Mitumba, une radio locale qui est née depuis Ouvira sur Kivu, et il est aussi correspondant du journal Tissia Grand Lac. Bonsoir Trésor Mouyingo Makunya.
Bonsoir, Kumati.
Intolérance politique à la veille des élections, point sur le préparatif des élections en République démocratique du Congo. Écoutons cette revue de presse que nous propose Pauline Couté pour savoir comment la presse a exploité ces différents thèmes.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'intolérance politique observée dans certaines villes de la RDC pendant cette période électorale. L'Avenir constate qu'au Katanga, la chasse à la sorcière, Kyungu contre les candidats non originaires a commencé. Selon le journal, si la hache de guerre entre Kasaï et Katanga est déterrée, la CENI aura du pain sur la planche dans cette partie de la République, à moins que le CESAC prenne à temps toutes ses responsabilités. Le Phare de son côté, lui, fait le bilan de ce qui s'est passé le week-end dernier à travers le pays et parle d'un week-end noir à Lubumbashi. À Mbujimayi et à Kinshasa, à Lubumbashi renseigne le quotidien. 16 blessés ont été enregistrés dans le camp de l'UNASEC, parti de Kyungu Kumanga et de l'UDPS des Tiennes Tshisekedi Bim. À Mbujimayi, il y a eu un mort. Le journal a noté que le gouverneur Ngoï Sassanji a quitté son habit d'autorité provinciale pour revêtir celle de candidat et de propagandiste de la majorité présidentielle, farouchement opposé à la campagne des candidats de l'opposition. Pour le potentiel, les acteurs politiques mènent une campagne électorale sans consistance. Selon le journal, l'utile est absent dans cette campagne électorale. C'est plutôt des provocations, la même rengaine sous fond d'invectives contre l'un ou l'autre candidat, des polémiques stériles, des slogans creux comme si l'on avait affaire à des hommes miracles, à des personnalités mécaniques, présentation des programmes à l'emporte-pièce. Parlons à présent du dernier rapport de l'ONU sur les violations des droits de l'homme pendant ce processus électoral. L'Avenir rapporte en fait que ce rapport des Nations Unies, lancé le mercredi dernier à Genève en Suisse, fait référence au nombre inquiétant des violations des droits de l'homme pendant la période préélectorale en RDC. La prospérité note que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 188 violations des droits de l'homme entre le 1er novembre 2010 et le 30 septembre 2011, apparemment liées, écrit-elle, au processus électoral. Voilà pourquoi la Conseil note que les Nations Unies avertissent de tels incidents pourraient mettre en péril le processus démocratique et également engendrer des violences post-électorales. Le Phare constate pour sa part que ce rapport de la MONUSCO affable le gouvernement à travers l'implication directe des agents de la police nationale congolaise et de l'Agence nationale de renseignement. Voilà pourquoi le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme demande entre autres instamment au gouvernement congolais d'intensifier sa coopération avec la société civile, note le confrère. Terminant cette revue de presse par la suite des opérations du processus électoral, l'Avenir note que la CENI a publié la liste des bureaux de vote du Nord et du Kivu ainsi que celle de la province du Kasaï oriental.
Merci, Kelly Couté. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que vous venez d'écouter. Luc Nicomo Kabongat, vous êtes directeur de l'information à Congo Web et directeur général des Nouveaux Regards, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi le retour de plusieurs par la ville de Kisangani, d'Étienne Tshisekedi.
Tout à fait, comme d'habitude, on suit de la manière dont le confrère de la presse écrite traite l'information, même si quelque part de temps en temps, on déplore des dérapages ou des prises de position qui ne ressemblent pas à du journalisme pur. Vous venez d'apprendre dans cette revue de presse de Kiwi qu'il y a des dérapages dans la campagne électorale. Et la fois dernière, vous avez dit que la presse devrait prendre en charge et véritablement accompagner ces processus électoraux et ne pas jouer au jeu de politique. Et on le voit, lorsque la presse fait de la complaisance, les politiques se croient tout permis. Et donc, ils peuvent déraper. Mais s'ils savent que la presse va frapper fort, va interpeller, va pointer du doigt sur telle ou telle autre attitude, ils se mettent un peu sur leur garde.
Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique qui part ici à Kinshasa. La presse a aussi fait état de la rentrée judiciaire et de la prestation de serment des hauts magistrats hier à Lubumbashi, au Katanga.
Oui, c'est bon sens. C'est une bonne chose qu'il y ait eu rentrée judiciaire. Mais avant, les rentrées judiciaires étaient des grands moments de démocratie où les magistrats prononcer des discours d'orientation pour le service. Or, actuellement, les magistrats, dans leur entrée judiciaire, aliènent de plus en plus leur liberté, leur autonomie.
Comment ?
En lançant des fleurs au pouvoir exécutif, ce qui est dommage, en relatant chaque fois, oh non, voilà, les efforts ont été fournis, tout ça. Ils rentrent dans la rengaine politique. Moi, je pense que lors de rentrées judiciaires, ils doivent se démarquer des politiques, se démarquer du chef de l'État, se démarquer du gouvernement, s'affirmer en tant qu'une structure autonome qui travaille pour la distribution de la justice, une justice qui n'est pas inféodée au pouvoir exécutif. C'est loin d'être le cas.
Et vous pensez que parce qu'on a salué les efforts du gouvernement, cela signifie qu'on aliène sa liberté ?
La façon de le saluer, la façon de le dire, le cadre, ne sont pas bien séants. Ils doivent se battre justement pour que la structure comme le Conseil supérieur de la magistrature ait une dotation autonome. Je pense que la justice dans ce pays doit vraiment travailler à son indépendance, à son autonomie. C'est loin d'être le cas.
Merci, Trésor Mouindo Makounia. Vous êtes journaliste à la radio Mitumba. C'est une radio locale qui émet depuis environ 6 kivu. Vous êtes aussi correspondant du journal 6-5 lac. Quelle est la qualité à la une à environ 6 kivu?
Aujourd'hui, comme partout à la République démocratique du Congo, l'actualité à Ouvira est dominée par le processus électoral. Nous sommes en pleine campagne électorale il y a 14 jours et nous ne voyons plus de candidats décidés en train de solliciter l'adhésion des électeurs à leur programme pour qu'ils puissent voter pour eux le 28 novembre. Cependant, du matin, un constat amer a été fait, la manière dont cette campagne se déroule et compte tenu du discours de certains candidats, en tout cas, sont vides et sont dénoués de toute pertinence. Depuis que cette campagne a commencé, on ne voit au fait pas vraiment les candidats députés tenir des meetings, des débats politiques au cours desquels ils doivent agrandir leur programme. J'en connais que deux depuis que les opérations, depuis que la campagne électorale a commencé. D'ailleurs, je me rappelle avoir posé à l'un d'entre eux la question de savoir son programme. Il me dit, programme c'est quoi? On a déjà approché plusieurs d'entre eux sur des médias locaux, mais ils disent que le temps de venir à la radio n'est pas encore arrivé. Nous allons venir, mais vous en faites pas. Je me demande, c'est quand ou c'est quand d'arriver à la radio, c'est quand. D'autres sont incapables de même s'exprimer devant les gens, en fait, tantôt leur suppléant, tantôt leur porte-parole.
Merci. Notre premier thème de ce soir, à moins de 3 semaines de la tenue des élections, des cas d'intolérance politique se multiplient à travers la République démocratique du Congo. Les tensions nées du lancement de la campagne électorale sont perceptibles dans certaines parties de la RDC. Elles se servent non seulement entre certains partis de l'opposition et de la majorité, mais aussi entre partisans d'une même plateforme politique. Cette intolérance se manifeste soit par des affrontements, des injures lors des marches et des meetings au cours desquels des chansons véhiculant des messages de haine sont entonnées. Des attaques personnelles à peine voilées sont distillées à travers certains médias en lieu et place de projets de société. Plus de détails avec Kelly Nkunke.
Au Katanga, cette tension se manifeste à travers des incidents qui opposent les militants des grands partis comme l'UDPS, l'UNAFEC et le PPRD. Lundi dernier, par exemple, les militants de l'UDPS ont sillonné les grandes artères de la ville de Lubumbashi, brandissant des cartons rouges synonyme des sanctions à infliger à la majorité au pouvoir, acte que les autres assimilent à de la provocation. Ce même jour, plusieurs affiches des candidats étaient déchirées par des inconnus. Aussi de Kivu, des actes d'intolérance politique s'amplifient entre partisans des candidats à la présidence de la République. Dans la ville de Bukavu, un groupe d'hommes acquis à la candidature de Joseph Kabila ont agressé un jeune homme pour sa conviction contraire. À Mwenga, toujours aussi de Kivu, le bureau de l'UNC est interdit d'ouvrir ses portes sur demande des autorités coutumières. Dans la cité de Baraka, en territoire de Fizi, les partisans du Panader se déclarent menacés. Au Kassai oriental, il y a quelques jours, plusieurs incidents ont été enregistrés dans la ville de Mbujimayi. Des accrochages ont opposé les membres de l'UDPS et ceux du PPRD. On parle de blessés et des arrestations. Une violence électorale signalée aussi à Kalima, dans le Maniema. Là, on assiste à l'affrontement des partisans des formations politiques, membres d'une même plateforme politique, à savoir la majorité présidentielle. Il s'agit des membres de la FDC de Bahati Lukwebo et ceux de la NAD d'Athanase Matenda Kelou. Ils se sont battus la nuit dernière. Les bilans de ces altercations font état des deux blessés internés à l'hôpital général.
Comment combattre des actes d'intolérance enregistrés à travers le pays à la veille des élections? Comment vous analysez cette situation?
De prime abord, je constate que nous sommes dans une société qui n'a pas encore intériorisé les valeurs, si vous préférez, les vertus démocratiques. Ça veut dire que vous les entendre au sein d'un même parti politique, partageant la même idéologie politique. Les adeptes se battent entre eux. C'est vraiment regrettable. Ça veut dire quoi? Que ces gens qui disent venir en politique pour servir la population, ils sont loin des préoccupations du peuple, des préoccupations sociales. Je vais en venir là-dessus, pour aller un petit peu plus loin, pour dire qu'il faudrait que, dans les années qui viennent, qu'on arrête cet engouement, cet afflux massif des candidats à des élections. Si vous creusez là-dessus, vous vous rendez compte que la motivation de l'engagement politique est loin de servir la population, parce que s'engager en politique, c'est s'engager à faire un apostolat. C'est un apostolat, un ministère. Et nos acteurs politiques, ce ne sont pas des vrais apôtres de la population. Alors, pour décourager cet afflux massif vers la politique, il me semble qu'on doit arriver d'abord à réduire le salaire ou les évolutions, si vous voulez, des députés, des ministres, du président de la République, de mandataires publics, retirer la partie réduite pour essayer de redistribuer à la population qui est paupérisée et qui croupit dans la misère devant l'indifférence criante des hommes qui disent servir cette même population. Deux, j'ai quitté chez moi ce matin, j'arrive au niveau du boulevard triomphal, je vois des tessons de pierres, de vitres, je demande ce qui s'est-il passé. Les partisans du PPRD se sont affrontés de manière sanglante avec les partisans de l'UDPS, simplement parce que... Oui, aujourd'hui, ce matin, monsieur qui s'était dit étant revenu, il y a eu ces partisans qui voulaient manifester leur joie de ce retour triomphal, disait-il. Par ailleurs,
c'était
tout à fait normal, ce qui n'a pas été supporté ou accepté par l'autre camp opposé. Je trouve que les partis politiques n'ont pas suffisamment fait leur travail de conscientiser au civisme politique leurs partisans, et là, il s'agit de tous les partis politiques sans discrimination, il faudrait les faire rentrer à l'école du civisme politique pour penser arriver à une pratique politique responsable et donc une pratique politique pour le bien de la population.
Israël Moussala, Mikomo Kabongat, dit que nous sommes dans une société qui n'a pas intériorisé le statut démocratique, mais aussi cette classe politique qui est issue de cette société n'était pas à la base de ces violences, de par les messages que les médias politiques communiquent à leurs militants, à leurs partisans.
Je partage totalement l'opinion de Luc. Je partage aussi son opinion selon laquelle les émoluments des hommes politiques sont indécents, vu justement la pauvreté généralisée dans le pays. Il fallait, par exemple, que pour les parlementaires, que leurs émoluments soient bloqués à 1500, comme ce fut le cas pendant le 1 plus 4. Et donc, aujourd'hui, ils sont à plus ou moins 6000, sans voir les invisibles, c'est totalement indécent. Je ne parle pas de chef de l'État, je ne parle pas de premier ministre et des ministres. Nous sommes dans une société où les, entre guillemets, riches congolais ont exercé des fonctions politiques ou ont été mandataires de l'État. Et ils ont travaillé des contrats de gré à gré, à gauche, à droite, bref, des commissions, et ils sont devenus riches. Donc, pas véritablement la classe moyenne. Des gens qui peuvent se dire aujourd'hui, je suis dans un pays, je monte mon affaire, je deviens riche, et tout. Non, non. Tous, la plupart de ces gens, des gens qui se disent riches, l'ont été aux manelles de l'État. Nous sommes dans une société totalement anormale. Il faut réguler la société. Nous sommes dans une société comme je l'ai aujourd'hui. Nous sommes dans une démocratie sans démocrate. Aujourd'hui, je vous dis, ouais, s'il n'y avait pas la pression de la communauté internationale, ces élections n'auront pas eu lieu. Je vous dis vrai aujourd'hui. Si aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, je me lève le matin et je supprime le régime démocratique sans qu'il y ait, par exemple, un tollé international, il le ferait. Ils ne le font pas parce qu'il y a une contrainte internationale, une dynamique internationale qui va dans le sens qu'il faut être dans un régime démocratique. Si l'on enlève cette contrainte internationale, nous allons retomber dans le système dictatorial. Pourquoi ? Parce que personne ne vit la démocratie comme un système d'épanouissement des peuples, où les peuples peuvent s'unir malgré leurs différences pour travailler vers le développement. Pourquoi les valeurs démocratiques sont intériorisées ? Parce que les élections sont précédées par une campagne justement de sensibilisation. Et cette campagne devait commencer une année plus tôt. Ce serait, par exemple, le rôle des émissions à la radio nationale, à la télévision et dans tous les médias. Ça n'a pas été fait.
À qui vous incombez la faute ?
La faute incombe au gouvernement, malheureusement. C'est au gouvernement de travailler pour l'intérêt général. Or, malheureusement, le gouvernement se met plutôt dans la vie du politique plutôt que d'un homme d'État. Donc, aujourd'hui, il est à la fois juge et parti. Alors, souvent, il aime bien être parti que juge. C'est au gouvernement de maintenir l'ordre public, c'est au gouvernement de garder le cap, de garder l'orientation, malgré les provocations. C'est au gouvernement, justement, de mettre le tempo démocratique.
Mais on a constaté, les dérapages ne viennent pas nécessairement du camp de la majorité présidentielle.
Oui, je suis parfaitement d'accord. Je donne l'exemple de l'UNASEC, par exemple. Quand les militants...
C'est une partie de la majorité présidentielle.
Sont, voilà. Quand les militants, par exemple, de l'UDPS, au Katanga, brandissent un carton rouge, c'est de leur droit, c'est leur opinion. Les autres n'ont qu'à brandir un carton blanc, par exemple, pour dire que non, nous voulons. Et voilà, en toute convivialité, c'est un débat démocratique, un débat d'idées. Mais pourquoi les autres vont gêner les militants de l'UDPS sans que les sanctions s'enfuient? Et puis on va appeler au calme. Appeler au calme, c'est comme si les deux étaient fautifs. Non. Il faut que le gouvernement dise non, ces provocations, nous les condamnons énergiquement et fermement.
Merci. Bonjour, Romuindo Makunya. Y a-t-il des cas d'intolérance au Vira aussi que vous?
Bon, du matin, on dira une partie du territoire en l'air, mais c'est où des partis politiques sont de la mouvance présidentielle que de l'opposition sont implantés. C'est assez normal que l'intolérance politique y soit également vécue. Mais pas de mention, c'est que ça se fait ailleurs. On le signale en tout cas très rarement des partisans de certains partis politiques qui ont tendance à confondre, se permettre de déchirer les utilisés des autres candidats. Donc les partis politiques ont fait quand même état de vol de leur drapeau par les enfants qui présument auprès des camps du camp adverse en vue de passer à leur divinité. Mais l'intolérance, comme c'est vécu ailleurs, rapport des forces, démonstration des forces à l'Ira, en tout cas on peut s'en féliciter. Rien dans ce sens n'a été signalé. Mais l'explication qui est actuelle dans certains RDC, il ne faut pas la chercher très loin, cher confrère. C'est dû à l'impréparation des militants, des partisans, des partis. Leur dire ce qu'ils doivent faire pendant cette période de la campagne électorale, c'est l'idéologie du parti. C'est ce qui leur a manqué. On croit que le parti politique, un centre de récupération, ou ça doit à tous les anciens combattants, présentement démobilisés, iront se recréer. Les partis politiques ont encore comme fonction, et j'espère qu'ils sont censés connaître, former les clients, sélectionner les candidats, encadrer les élus, éduquer et informer les électeurs. Mais l'analyse de tout ceci peut amèrement nous pousser à dire que certains partis n'en sont que des noms. Ceci peut aussi s'expliquer par le fait que certains leaders des partis politiques sont devenus plus charismatiques après la fin de leur mauvais réflexion pour que les militants passent aux actes sans s'interroger de leur part de responsabilité dans tout cela. Mais moi, je suis toujours esclave de normes légalement établies. En cas de palais d'agissement, que doit-il s'en suivre, quelle est la loi? Quelle sanction encourt ceux qui, à ne faire que seul prix, se livrent à des actes de vandalisme pendant des périodes? Si sanction y en a, combien ont déjà suivi la rigueur de la loi? Quelle est la fonction du suivi de ma peine? Sinon, nous nous limiterons à décrier, nous allons pleurer, pleurer ici, aujourd'hui les deuils, mais cela ne va pas terminer. Il faut que différents candidats, en tant que président de la République, que députés nationaux, prennent à main leur responsabilité. Ils appellent à l'ordre leurs militants.
Luc Nicomo Kabongat, une certaine opinion pense que la classe politique n'était pas préparée à ces élections. Trésor vient même de les relever. Vous avez dit que nous sommes dans une société qui n'a pas intériorisé les acquis démocratiques. N'êtes-vous pas en train de donner raison à ceux-là qui ont pensé qu'il fallait carrément reporter ces élections?
Pas tout à fait. Lorsque je suis intervenu ici la semaine dernière, nous étions avec Tony, je lui ai dit qu'il ne servirait rien à parcourir, il fallait partir à point. Ça, c'est une autre paire de manches.
Partir à point, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il fallait prendre le temps qu'il fallait, c'est-à-dire bien gérer le temps, afin que l'on ne donne pas l'impression qu'on est pris de court par le temps et qu'il faut courir à tout prix afin que les 28, les élections aient lieu. Là, c'était vraiment un dépôt rédhibitoire. Propre à tous les Africains, on ne sait pas gérer rationnellement le temps dont on dispose. On laisse passer le temps dans des dévues, dans de la distraction, et à la dernière minute, on se réveille et on veut faire comme si on avait pris les choses au sérieux à temps et qu'on était en train de y faire pour que les choses aillent bien. Je voudrais dire ceci, Guy Maté. Observez un peu notre gouvernement. J'ai entendu le sénateur Moïse Rougabo déplorer que le budget 2010 n'avait pas été exécuté. Le budget 2011 n'a pas été exécuté. Bon, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent qu'on avait affecté à l'organisation des élections avait été destiné à autre chose. Tout à l'heure, mon confrère, co-débatteur Israël vient de dire qu'on ne s'est pas préparé pour les élections et qu'on n'a pas mis le sérieux pour préparer les élections. Je dis qu'il ne faut pas qu'on reporte les élections pour reporter, mais il faut qu'on analyse en réunissant tous les paramètres. S'ils sont réunis, comme le fait entendre M. Moulunda, allons le 28, pourvu que les élections du 28 nous donnent les résultats escomptés, attendus, et par la communauté congolaise, africaine et internationale. Mais au cas où les critères, les paramètres n'auraient pas été réunis, on n'aille pas aux élections pour faire du cirque. Nous n'en avons pas besoin.
Et Israël Moussala, pourquoi les leaders politiques qui ont une certaine influence sur l'opinion publique ne réagissent pas face à tous ces cas d'intolérance qu'on observe à travers le pays? Nous voyons venir la violence, mais tout le monde reste passif. Cela pourrait être dû à quoi?
Bon, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Mais je voudrais revenir par exemple sur la violence verbale. Nous sommes dans un régime où, par exemple, le culte de la personnalité a pris de telles proportions qu'il y a des gens qui s'imaginent que Joseph Kabila, c'est pratiquement un dieu, il est intouchable. Alors les gens de l'opposition, ils doivent lancer des colibés pour désacraliser la personne. Parce que nous sommes dans une stratégie où les uns le divinisent, où les autres le diabolisent. Et donc, pour matérialiser cet état d'esprit, il faut des colibés, des chansons, tendant. Voilà, nous sommes dans cette logique-là.
Et donc, il faut que les leaders politiques puissent modérer.
Les leaders politiques doivent nous aider, justement, et du côté du pouvoir, du côté de l'opposition, à tempérer cela. Et cela, ça doit se faire par une culture démocratique. Les partis politiques n'ont pas les moyens, il faut le dire, pour encadrer les masses, pour faire des séminaires, pour former leurs militants. Ils n'ont pas les moyens, justement. Il faudrait que, dans les années à venir, qu'on réfléchisse au mode de financement de partis représentatifs et significatifs pour encadrer la masse, pour que nous donnions à notre démocratie un peu de consistance. Sinon là, nous sommes dans un simulacre de démocratie, mais en réalité, tous font semblant d'être des démocrates alors qu'ils ne le sont pas. Même le fait que la plupart des partis ont tenu de congrès, à la va-vite, et tout ça. Bon, il y a eu beaucoup d'impréparation aussi.
Bonjour Mouindo Makunya, la nouvelle société civile du Congo propose que la CENI prenne l'initiative de faire rencontrer le candidat Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour que ces deux personnalités passent un message de paix à l'intention de la population. Comment vous appréciez la proposition de la nouvelle société civile du Congo?
En fait, cette proposition de la nouvelle société civile du Congo est tout à fait la bienvenue, oui, c'est une très bonne initiative, mais reste à savoir si ces deux candidats, au fond, ont-ils même à accepter. Et ils ne sont pas les seuls, ce n'est pas seulement Joseph Kabila, et ce n'est pas seulement Étienne Tshisekedi, mais il y a aussi Vital Kamerhe, Adam Dembélé et les autres. Mais lorsqu'on cite nommément Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, c'est tout à fait normal. On voit que de leur côté, il y a eu une préparation de la de leurs partisans, ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été informés de l'idéologie de ce qui est un parti politique. C'est tout à fait en tout cas normal que la nouvelle société civile vienne à la rescousse des cadres congolais du matin.
Luc Nikomo Kamonak, un mot par rapport à la proposition de la nouvelle société civile congolaise.
Je dis ceci à la nouvelle société civile et à mon confrère présent que je viens de suivre, que ce n'est pas parce qu'il y a eu de l'impréparation dans ces deux camps. Vous savez, dans tout processus électoral, il y a ceux qu'on appelle les candidats sérieux. Dans le cas présent, Kabila et Tshisekedi paraissent aux yeux de l'opinion, peut-être faussement, comme des candidats sérieux. Mais quant à ce déficit de préparation civique, il concerne tous les partis politiques,
toute
la société dans son ensemble. Donc, aussi bien les candidats de Tshisekedi, de Kamerhe, de Adam Bombolé, de Kengo, de Kachala et des autres, tous ces candidats, toute cette masse doit être éduquée au civisme démocratique.
Merci, Réal Moussala, c'est faisable. Rencontre Tshisekedi Kabila.
Oui, la rencontre Tshisekedi, c'est faisable après les élections.
Avant les élections.
Il est difficile parce que l'UDPS est très fâché parce que toutes ces revendications, notamment l'audit du fusil électoral n'a pas été, cette recommandation n'a pas été exécutée, donc je ne vois pas. L'UDPS a vu ses militants tués, donc l'état d'esprit de Tshisekedi n'est pas justement d'aller rencontrer le pouvoir. Donc je crois, mais il serait souhaitable quand même que, ça c'est important que je le dise, qu'il y a deux forces politiques qui se dessinent dans le pays. Une qui est arrivée à Tshisekedi et une qui est arrivée à Kabila. Moi, je pense que la stabilité de notre pays dépendra de la synthèse entre ces deux courants au lendemain du 28 novembre. Bien entendu, on peut encore intégrer Vital Kamerhe, c'est une force aussi importante quand on examine les violations des droits de l'homme dont il est victime. Donc, c'est une force aussi centrale. Et je rappelle qu'à l'époque, quand il était encore au PPRD, Vital Kamerhe disait déjà en 2004 ou 2005 que le bonheur du pays, ça sera la synthèse entre l'UDPS et le PPRD. Donc je pense que au lendemain du 28 novembre, je pense que pour l'avenir du pays, c'est important qu'on puisse dégager une synthèse.
Merci. Notre dernier thème de ce soir, élection législative présidentielle du 28 novembre prochain. La CENI affirme avoir entamé deux phases importantes, à savoir le déploiement des matériels et la formation des membres des différents bureaux de vote, des centres de vote, des centres locaux de compilation et autres. Après les opérations de révision du fichier électoral, la réception et le traitement des candidatures, la publication des listes des candidats, la CENI affirme avoir entamé deux phases importantes, à savoir le déploiement des matériels et la formation des membres des différents bureaux de vote, des centres de vote, des centres locaux de compilation et autres. Le vice-président de la CENI nous fait le point sur les préparatifs matériels des élections du 28 novembre. Le professeur Jacques Djoli était l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais à Radio Kapi, animée par Alain Irung hier soir.
À ce jour, les isoloirs ont pratiquement atteint le niveau de 90%. En ce qui concerne les kits électoraux, nous avons atteint le même chiffre, voire pour certains items tels que l'encre, nous sommes à plus de 100%. En ce qui concerne les urnes, sur les 16 rotations prévues, nous avons déjà 10 rotations. Dans les deux jours, nous allons avoir les quelques rotations qui restent. Nous croyons pouvoir terminer le déploiement des urnes au 15 novembre 2011. Le bulletin de vote, l'impression du bulletin présidentiel s'est terminée. Hier, un premier stock de 14 tonnes a atterri à Kinshasa avec le président de la CENI. Samedi, un deuxième vol va suivre. On a lancé l'impression de bulletins de vote pour les législatives. Un plan de déploiement est finalisé avec l'armée sud-africaine et la MONUSCO. Le déploiement effectif va commencer dans le temps et en termes de prévision, l'ensemble du déploiement de tous les matériels de vote sera terminé au plus tard le 25 novembre pour que nous puissions avoir notre élection le 28 novembre.
Vous venez d'écouter le professeur Richard Denis, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Comment vous réagissez à ce propos?
Lorsque vous suivez le professeur Denis, du point de vue de la forme, on dirait qu'il charme et il fascine, il tend à convaincre. Mais matériellement, il ne dit pas comment cela va se faire. Parce qu'il ne dit pas qu'ils ont augmenté le nombre de bureaux de vote. Et ils n'ont pas encore publié cette liste de près de 1382 bureaux de vote indiqués. Et ils ne nous disent pas quelle est la logistique matérielle, notamment les moyens de transport dont ils disposent pour que, au plus tard, le 25, ce déploiement se termine normalement. Mais il ne suffit pas seulement de déployer. Il faudrait que ces matériels soient installés pour les tests avant le 28. Et là, franchement, je crois que c'est du noir, c'est du flou, c'est la brume qui pèse sur le processus. Moi, je dis bravo la CENI dans cette espèce d'optimisme. Et ils affichent une conviction des disciples de la résurrection, parce que ces disciples-là croyaient que le Christ ressuscité resterait avec eux éternellement. Mais finalement, le Christ les a quittés. Et c'est la désillusion. Moi, je crois que Ngoï Mulunda sera honoré ou ne le sera pas selon la manière dont il va s'y prendre pour que, au lendemain du 28 novembre, que nous ayons des élections crédibles, fiables, transparentes
et apaisées.
Israël
Moutana, selon toujours le professeur Jacques Joly, d'ici le 15 novembre, la CENI aura terminé avec le déploiement des urnes. Il a dit que le déploiement de tous les matériels de vote sera terminé au plus tard le 25 novembre prochain. Et donc, on peut espérer que les élections vont se tenir à la date prévue.
C'est très serré. Le calendrier est très serré. Moi, j'organise des événements. Je sais comment je planifie. J'ai fait de la planification. J'ai fait des cours de projet, comment on planifie, comment est-ce qu'on va faire. C'est vrai que là, c'est très, très, très serré. Très, très serré. Ils n'ont pratiquement pas de marge de manœuvre. Ils nous avaient dit d'ailleurs la semaine passée qu'ils allaient publier les listes des électeurs dans tous les bureaux de vote. Je me suis renseigné à Kinshasa, c'est vrai, il y a un bon nombre de bureaux. J'ai vu les listes affichées, mais dans d'autres bureaux, pas encore. Nous sommes à Kinshasa, donc c'est qu'on a violé la loi déjà. Et je n'ose pas m'interroger ce qu'il en est à l'intérieur du pays. Donc je pense que là aussi, les listes n'ont pas encore été publiées. Mais c'est, moi, j'ai toujours dit, c'est même pas la photo au bureau à la CENI. La CENI n'est qu'un bouc émissaire. Le procès sur le gouvernement qui n'a pas mis en place la CENI à temps, qui a d'abord tergiversé, même pour avaliser la candidature de Joly, ils ont bloqué la composition du bureau pendant des mois, il faut qu'on le rappelle. Alors, ils ont maintenu l'ancienne CEI pendant de longues années, alors qu'il fallait bien évidemment mettre en place de la CEI. Donc, la faute ici, moi je ne m'en prends pas à Ngoï Mulunda ni à Joly, moi je m'en prends au gouvernement. C'est au gouvernement à qui il appartenait de mettre en temps les moyens et les hommes pour conduire cette mission délicate. Et donc, vous vous rendez compte aujourd'hui que la loi électorale est violée à plusieurs égards, à Kinshasa comme à l'intérieur. Donc, et les chefs d'entente n'ont pas les moyens d'afficher. Et donc, les déploiements vont commencer. Je souhaite que les rotations se passent bien, mais les rotations dans les grandes villes, ça ne pose pas de problème. Ce sont justement dans les coins les plus reculés. Nous sommes dans une saison pluvieuse et ces coins sont difficiles d'accès maintenant.
Président Mouindo Makounia, vous êtes aussi qui joue à Ovira. Et comment les partis politiques se préparent aux élections dans cette ville?
Bon, aujourd'hui, malgré en fait les contraintes de divers ordres, la CENI est petit à petit en train de rester en bloc. Les allégations de ceux qui croient que les élections n'auront pas bien lieu le 28 novembre. Avec tout ce que vous venez de citer là, c'est quand même rassurant, même si l'équipe n'a évoqué certains problèmes. La loi électorale est claire dans son article 8. Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est affichée 30 jours avant la date du scrutin. Avant que mon calendrier ne trompe, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, 17 jours avant le scrutin, ce n'est pas encore fait. et on parle des 5 millions de votes non à Kinshasa. Alors il y a des quoi se demander si, à la lumière de la réalité, c'est seulement à Kinshasa qu'on peut trouver tous les bureaux de vote. Comme paradoxalement, la CENI a publié la liste sur Internet, combien de filières de liste sont disponibles sur toutes les chargées de la RDC. Pour voir son nom à un bureau de vote, il faut aller à Internet, il est sûr d'ailleurs. C'est ça, d'ailleurs, ça, la violation flagrante de la loi, précisément l'article 8 de la loi électorale. On verra rien de législatif. Espérons que nous, que ce soit le chef d'Antoine Fény, va le faire le plus tôt possible. Ensuite, vous, la formation de formateurs électoraux provinciaux attirés par le gouvernement ce mardi, le 9 novembre, les formateurs électoraux, si certains d'entre eux seront éliminés d'ailleurs, fermeront à leur tour le site de centre de vote et le président des bureaux. Les derniers vont aussi former le membre du bureau de vote. Voyez-vous ce système de formation, chers confrères, qui devrait être fait deux jours avant que ce soit aujourd'hui. Donc, ce sont même prévus à deux jours du scrutin. Dites-moi alors, si c'est vraiment automatique, je vous suivrai le déploiement de rappeler le membre du bureau de vote, c'est dans tout l'effectif. Dans certains bureaux de vote, mais c'est juste ce que faire, en fait, à la hâte, les jours du scrutin. Il y a un point que vous n'avez pas étonné, le fait de comment partis politiques et de candidats indépendants. Je crois déjà que certains partis contestent les élections, étant donné qu'ils ne seront pas représentés dans tous les bureaux de vote. 63 865 bureaux de vote sur toute la RDC. Quels sont ces partis qui, en fait, sera à la hauteur du déployer le terrain? Il faut que ça soit pris et que vous présentez, sinon vous ne serez pas à la contestation des résultats dans des bureaux où vous n'avez pas été représenté.
Merci. Luc Comoraba, je rappelle que vous êtes directeur de l'information à Congo Web, qui est né depuis Kinshasa. Vous êtes directeur général des Nouveaux Regards, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. En dépit du travail fait par la CENI, la place politique semble toujours dubitative. Hein. C'est le cas, par exemple, du MLC, qui affirme que ses experts ont identifier des bureaux fictifs en vérifiant la cartographie des bureaux de vote. Si cette information s'avérait vraie, ça pourrait avoir quelles conséquences?
La question immédiate, c'est qu'on ne doit pas aller aux élections le 28 novembre 2008. Alors, parce que, avant de faire déplacer les populations pour les bureaux de vote, il faudrait que les principaux acteurs impliqués dans le processus électoral et mettre sur une même longueur d'onde, mais bien que matériellement c'est difficile. Mais au moins on doit avoir un espace de consensus. Si ce consensus n'est pas obtenu, eh bien croyez-moi, on va pour des élections contestables. Il faudrait que la CENI puisse prendre cette donne au sérieux pour que, s'il faut que l'on arrive à s'aboucher pour trouver un consensus, il faut qu'on le fasse très rapidement. De deux, il ne faudrait pas que la CENI nous amène vers un affrontement, vers un débattage, parce que, alors qu'il est ni l'union, les ingrédients semblent réunis pour qu'il y ait implosion politique, sociale, économique et tout, au cas où les élections ne seraient pas convaincante, accréditée, si vous voulez, par tout le monde.
Ibrahim Moutala, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique qui paraît ici à Kinshasa. Toujours par rapport à cette classe politique qui semble éducative, l'IDPS dit que les dés sont jetés pour que la CENI organise les élections en faveur du pouvoir en place. Comment vous expliquez cette méfiance alors qu'il existe un cadre de concertation entre la CENI et les partis politiques?
Donc, moi j'ai toujours dit ici, je l'avais dit ici il y a plusieurs mois, qu'une poste aussi importante comme l'IDPS, une poste sociale, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ne devait pas être en dehors du bureau de la CENI. On devait tout faire pour intégrer l'IDPS dans le bureau de la CENI. Comme ça, là, on aurait eu moins de problèmes, moins de contestations. Quand on revient
à... Nous avons la MLC qui a un représentant à la personne du professeur Jacques Joly. Il est présent au sein de la CENI, mais cela n'empêche pas, c'est parti à signifier le travail qui est fait par la CENI.
C'est vrai, mais dans le cas où ce serait eu des postes, on aurait quand même résolu à moitié le problème. Vous savez, par exemple, le MLC n'a pas été aussi exigeant sur la question de la révision de l'audit du fichier électoral. Nous sommes, par exemple, le MSF vient de dire, qu'ils ont découvert des centres fictifs. Mais à quoi sont ces centres fictifs, justement? Les centres fictifs servent à bourrer les urnes, parce que c'est avec un fichier faussé qu'on prendra justement un certain nombre d'électeurs qu'on mettra dans les bureaux fictifs. Donc les deux sont liés. Voilà pourquoi je dis que sur cette question, ce sont des questions qui méritaient d'être évacuées bien avant pour que le procès soit apaisé.
Merci Trésor Mouindo Moukanyaï. Je rappelle que vous êtes journaliste de la radio Mitumba, une radio locale qui émet depuis Ouvira aussi que vous. Vous êtes aussi correspondant du journal ici à Grand Lac. Que proposez-vous pour qu'on puisse avoir des élections apaisées dans ce pays?
Pour qu'on puisse avoir des élections apaisées dans cette république où nous sommes les partis en opposition que nous avons présentement déjà au créneau pour certaines revendications, il faut avoir des témoins partout dans les bureaux de vote. Je demande également aux partis politiques de bien sélectionner des témoins, car on a vu en 2006 qu'une fois dans les bureaux de vote défendait la chapelle des autres candidats. Eh bien, visiter avant la procédure de pré-entreprise dans le délai légal pour ne pas obtenir prochainement une seule recevoir de la part de la CENI. Et comme étant spécialiste en crise et pleurs, la CENI a été instrumentalisée pour priver notre monde de l'éducation, préparant ainsi une fraude électorale pendant que vous, parti politique, n'avez pas suivi la procédure.
Merci pour la fin de cette émission. Guy Mandango était à la technique, Alain Kiron à la réalisation, assisté de Télé Coupé sous la supervision de Télé Coupé à Mondo. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon suite de programme sur Radio Okapi.